Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un outil vraiment fondamental en stratégie d'entreprise, le diagnostic stratégique.
Mmh.
Et plus particulièrement, son incarnation la plus connue, l'analyse SWOT.
Oui.
Notre point de départ, c'est un guide pratique très bien fait, le diagnostic stratégique, le SWOT, mode d'emploi. On le trouve sur lesclésdumanagement.com.
C'est ça.
C'est une ressource, je pense, précieuse pour les étudiants, ceux qui préparent des concours, mais aussi les profs, les professionnels, bref, tous ceux qui veulent bâtir des stratégies solides.
Absolument. L'idée de base, c'est vraiment de comprendre où une organisation se situe, pour mieux définir où elle peut aller, quoi.
D'accord.
Et le SWOT, ou FFOM en français, force, faiblesse, opportunité et menace, c'est un cadre d'analyse assez structuré. Il date un peu, hein, des années 60, Albert Humphrey.
Ah oui, quand même.
Mais son gros avantage, c'est cette simplicité visuelle pour saisir les facteurs clés internes comme externes.
Ok, alors entrons un peu dans le concret. On visualise bien cette fameuse matrice, quatre cases. Force, faiblesse d'un côté, opportunité, menace de l'autre. Par où on attaque ?
Ah, très bonne question. Et c'est un point souvent un peu oublié, je trouve. Il faut toujours commencer par l'analyse externe.
Ah oui, d'abord l'externe.
Impérativement. Les opportunités, les menaces, pourquoi ? Bah parce qu'une force ou une faiblesse interne, ça n'a de sens que par rapport à l'environnement.
Logique.
Une force pour saisir quelle opportunité, une faiblesse face à quelle menace. Isoler l'interne, ça n'a pas vraiment de sens stratégique.
D'accord, je vois. Alors, pour regarder cet environnement externe, le guide propose quoi ? On entend souvent parler de PESTEL.
Oui, PESTEL, c'est un peu l'incontournable pour le macro-environnement. Alors, P pour politique, E, économique, S, socio-culturel, T, technologique, E pour écologique, de plus en plus central, celui-là, et L pour légal. C'est une évolution d'un modèle plus ancien, ETPS.
D'accord.
Ça aide à repérer les grandes tendances, les lames de fond. Mais,
Oui.
Il y a un mais.
Ben oui, le guide met en garde.
Sans une mise à jour très très régulière, surtout sur le T et le E, le technologique et l'écologique.
Ça bouge vite.
Voilà, ça peut vite devenir un exercice un peu rétrospectif, quoi. Et puis, ça peut rester assez général, on risque de rater des signaux faibles.
Compris. Et si on veut zoomer un peu sur la concurrence plus directe, le secteur d'activité ?
Alors là, l'outil classique, ça reste les cinq forces de Michael Porter.
Ah, Porter, oui.
Exactement. Souvent, on parle même de 5 plus 1 force, en ajoutant le rôle de l'État.
D'accord.
Donc on évalue l'intensité de la concurrence en regardant ça. La rivalité entre ceux qui sont déjà là, la menace de nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des clients, celui des fournisseurs, et puis la menace des produits ou services de substitution. Ça donne une bonne idée de l'attractivité du secteur.
Ok, donc on a une vue du terrain de jeu externe. Mmh. Maintenant, comment on fait pour l'introspection, l'analyse interne ?
Alors là, il y a principalement deux grandes approches qui sont souvent complémentaires. La première, c'est la chaîne de valeur.
Encore Porter.
Encore Porter, oui, décidément. L'idée, c'est de décomposer l'entreprise en activités. Les activités principales, logistique, production, marketing, vente, service.
Celles qui touchent le client directement.
Voilà. Et les activités de soutien, les RH, la R&D, l'infrastructure, les achats. Et on regarde où l'entreprise crée de la valeur ajoutée pour le client et où sont ses coûts.
Pour trouver les points forts.
Ou les points faibles.
Exactement.
Où se situent les avantages concurrentiels potentiels ou au contraire, les inefficiences.
Intéressant comme découpage. Et la deuxième approche interne ?
La deuxième se focalise plus sur les ressources et les compétences spécifiques de l'entreprise.
Ah oui ?
C'est une vision qui vient d'auteurs comme Edith Penrose et qui a été popularisée ensuite par Barney ou Prahlad et Hamel. On cherche les actifs uniques.
Plutôt l'immatériel, non ? Les savoir-faire, la marque ?
Souvent, oui. Le tangible et, de plus en plus, l'intangible. Un savoir-faire particulier, une réputation, une culture d'entreprise forte. Et pour évaluer si ces ressources donnent un avantage durable, on utilise souvent les critères VRIO.
VRIO, ok.
Oui. Est-ce que la ressource a de la valeur ? Est-elle rare, difficilement imitable ? Et est-ce que l'organisation est en place pour l'exploiter ?
VRIO, d'accord. C'est clé aujourd'hui avec l'immatériel.
Tout à fait. Mais là aussi, petit piège. On peut avoir tendance à être un peu trop centré sur ses propres ressources.
Et oublier de regarder si elles sont pertinentes pour le marché ?
C'est exactement ça. Le risque de l'introspection, quoi.
Et donc, après tout ce travail d'analyse, externe puis interne, le SWOT vient faire la synthèse.
C'est ça. Il couronne un peu le tout. Sa grande force, c'est de donner une vue d'ensemble, un diagnostic partagé, assez simple à communiquer.
Un bon résumé visuel.
Voilà. Mais il faut être conscient de ses limites. Le guide le rappelle bien. C'est une photo à un instant T.
Statique, oui.
Ça peut être très subjectif, selon qui fait l'analyse. Ça ne hiérarchise pas forcément les facteurs. Quel est le plus important ? Et puis, si on commence à lister des dizaines d'éléments dans chaque case, ça devient un peu une usine à gaz inutilisable.
La fameuse liste à la Prévert.
Un peu ça, oui. Ce n'est pas une fin en soi, le SWOT. C'est vraiment un point de départ pour la réflexion stratégique.
Donc, en résumé, pour qu'un SWOT soit vraiment utile, puissant, il faut le nourrir avec des analyses rigoureuses en amont. PESTEL, les 5 forces de Porter, la chaîne de valeur, l'analyse VRIO.
Absolument. La qualité du SWOT dépend directement de la qualité des analyses qu'il alimente.
C'est un cadre structurant, mais ça demande de garder un esprit critique, de l'adapter.
Tout à fait. Et ça soulève une question, je crois, qui est vraiment importante aujourd'hui, avec l'environnement qui est si turbulent.
Laquelle ?
Comment on fait pour que ces outils qui ont quand même été pensés dans un monde un peu plus stable, comment on les transforme pour qu'ils soient vraiment des instruments agiles ?
Qu'ils ne soient pas juste un exercice ponctuel.
Voilà. Plus des outils de veille et de questionnement permanents, plutôt qu'un simple rituel annuel dont les conclusions sont peut-être déjà un peu dépassées au moment où on les sort, quoi.
C'est une interrogation fondamentale pour tous ceux qui font de la stratégie, en tout cas pour approfondir ces concepts et découvrir d'autres ressources en management. En stratégie, le site lesclésdumanagement.com est vraiment une excellente référence.